Les colloques du Collège de France.
Chers collègues, à mon tour, avant de commencer mon exposé, je voudrais bien entendu remercier les efforts que les organisateurs de la conférence ont faits pour arriver à ce magnifique ensemble. C'est vraiment dynamisant et enthousiasmant de pouvoir vivre ces deux jours. Je les remercie en particulier de ne pas avoir imposé de limite d'âge pour les intervenants. Mais il faut avouer que j'ai eu quand même un petit peu peur en regardant la dernière image que Dominique nous a montrée hier de son introduction. Ça m'a fait fort plaisir, évidemment, en tant que Belge, de voir une image de Tintin. Mais ça m'a rappelé aussi que l'entête du journal de Tintin, c'est de 7 à 77 ans. Donc pour cette année, ça va encore, on verra l'année prochaine. De ce fait, vous connaissez mon âge. Bien, le principe Matrioshka, des archives dans les archives. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous avons découvert en deux mots, en étudiant ces archives depuis quelque temps déjà, qu'il y a des documents dont il est difficile d'expliquer la présence dans ces archives d'Urutu. Alors, en deux mots, tout le monde sait évidemment, c'est toujours ce que je pense et espère, de quelles archives il s'agit. Ce sont les archives des Kalamahu de la déesse Anunitum Asiparamanum, Inanamansum et son fils Urutu. Comme toutes les choses importantes en ce monde, ces archives ont été découvertes par hasard. Pourquoi par hasard? Eh bien, au milieu du site de Teleder, donc Siparamanum, il y a une dépression. Et notre archéologue, Hermann Gasch, a voulu savoir est-ce que c'était un cours d'eau qui passait au milieu. Pour ce faire, il a fait une tranche d'une berge à travers le chenal jusqu'à l'autre berge, et à l'autre berge, par hasard, il a découvert une maison, et dans cette maison, nous avons découvert 2000 et des tablettes d'archives. Donc c'est le hasard qui a fait la découverte. Ensuite, en étudiant ces archives, nous avons pu établir ce que j'ai décrit dans mon Verba volant, scripta non manent, un peu l'histoire de ces archives. Nous savons qu'Inanamansum est originaire de Sipar Yachurum, la ville jumelle, où sa famille était composée principalement de prêtres lamentateurs, des Kalou. Lui a été nommé probablement au début du règne et par le roi Amiditana Kalamahu, donc le grand lamentateur de la déesse Anunit, et de ce fait, il a déménagé à Sipar Amnanum. Il a d'abord loué une maison. Il a pris avec lui de Sipar Yachrum, nous le savons, une partie ou peut-être de la totalité de ce qui restait encore des documents d'archives mentionnant ses ancêtres. Il a pris ça avec lui à Amnanum. Dans sa maison de location, évidemment, il a continué sa fonction de grand lamentateur et ses activités économiques, donc nombre de documents s'y sont ajoutés. Et finalement, en Amiditana 28-29, il a acheté trois petites maisons qu'il a fait détruire. Il a construit sa grande maison à la place de ses petites maisons. Et dans le locus, une petite chambre, le locus 22, il a entreposé ses archives qui n'ont cessé de grandir, évidemment. Et son fils Urutu, quand il est décédé après quelques troubles entre les frères, a repris sa charge et a continué d'ajouter à ses archives. Et c'est tout à fait à la fin de l'occupation de la maison que, juste après ou pendant qu'on était en train de refaire la maison, on a refait les sols, on a sorti les documents d'archives de la petite chambre, on a refait le sol, on les a remis dedans, ce qui explique peut-être un peu le désordre dans lequel on les a trouvés malheureusement. Et Urutu a fait construire une ajoute à la maison, à l'arrière, avec une nouvelle chambre d'archives qui avait le double du volume de l'ancienne chambre qui était visiblement devenue trop petite. Et c'est pendant le tri et le déplacement des documents de l'ancienne chambre d'archives qu'ils étaient en train de mettre dans la nouvelle chambre d'archives, que la catastrophe est arrivée, très grave pour eux, et c'est le plus grand bonheur pour nous, évidemment, comme toujours. Il y a eu le feu à la maison, le toit s'est effondré, les habitants se sont enfuis, et, chose remarquable, personne n'est jamais revenu pour prendre ces documents, qui étaient quand même des documents de propriété foncière, etc. On retrouve une trace dans un texte de Siparia Khurum, d'un des enfants de, donc du frère de Routoul, Khuzaloum, mais après, c'est fini. Donc, nous sommes alors en Amitsadouka 18-19. Voilà. Donc, ça, pour situer les archives. Alors, de quoi se composent ces archives? Combien de textes y a-t-il? Eh bien, ils ont été numérotés par Hermann Gasch et Léon de Meyer de DI, donc Der Inscriptions, c'est les inscriptions de Der 79 à 2257. Pourquoi à partir de 79? Parce que ils ont commencé à fouiller à un autre endroit, le chantier A, où ils ont trouvé 78 tablettes qui ont été copiées et publiées par Léon de Meyer dans un volume de Tel et Der, de la série Tel et Der. Et donc c'est à partir de 79 qu'on commence à numéroter les documents des archives dans la maison de Inanna Mansum et Urutu. Ça fait donc en tout 2179 tablettes. Mais dans ces numéros sont compris aussi des groupes de fragments de tablettes. Donc c'est un peu plus, c'est un peu moins, il y a des joints aussi. Donc c'est, encore une fois, ça donne une indication, ce n'est pas un chiffre absolu. De ces 179 tablettes, si nous voulons étudier vraiment ce qui est l'archive, eh bien, nous devons retirer les 65 tablettes d'apprentissage, les tablettes dites scolaires, alors que, évidemment, il n'y avait pas d'école à cet endroit, mais un apprentissage de l'écriture, ce qui fait qu'il nous reste 2113 tablettes véritablement d'archives dans la chambre, dans la chambre 22. Alors, pour notre propos aujourd'hui, nous pouvons diviser ces 2113 tablettes en deux groupes. Le groupe qui est attendu normalement dans une archive de ce genre, et puis le groupe inattendu dans les archives de ce type. Les attendus, c'est évidemment, ce sont les textes juridiques, ce sont les contrats au nom des Kalamakhou, hein, là où ils prêtent de l'argent, ils achètent, ils louent, etc. Ensuite, les documents comptables, les listes, les tables, les notes, et nous verrons qu'il y en a pas mal. Et là, nous commençons déjà à entrer dans la difficulté de reconstituer des archives. La première catégorie, aucun problème, on les attribue au Kalamakhou, Inanna Mansum, Urutu. La deuxième catégorie, souvent, ne mentionne pas les Kalamakhou, ne mentionne pas de noms, ce sont des listes, etc. Si on les avait trouvées hors contexte, eh bien, on aurait eu le plus grand problème pour pouvoir les rattacher à ces archives. Ensuite, il y a évidemment les fameuses chaînes de transmission, et là aussi, je suppose toujours que tout le monde sait ce que c'est, mais enfin, pour ceux qui ne le savent pas peut-être dans les détails, je résume vite fait. Lorsque un bien immobilier et l'initiateur de cette trouvaille est Dominique Charpin, évidemment, qui est le premier à publier, ça nous a fort frustrés d'ailleurs, parce que on avait découvert le système dans les archives de Routou, et puis on dit, on va publier, et puis la publication de Dominique est arrivée. On a eu le bonheur que ce soit publié et que ça ait confirmé ce que nous savions, mais bon, on arrive bien. Bon, ça va. Les chaînes de transmission. Qu'est-ce que c'est lorsqu'un bien immobilier, que ce soit un champ ou une maison, est transmis, c'est-à-dire vendu, échangé, hérité? Eh bien, évidemment, un document est établi. L'acheteur reçoit ce document, mais doit en même temps recevoir tout le dossier afférent à l'histoire de cette propriété immobilière. Donc, on remonte à la vente ou l'héritage ou l'échange précédent. Ce sont ce qu'on appelle les tablettes jourdées, jusqu'à ce qu'on arrive à la naissance de la maison ou du champ, et c'est la tablette oumatim. Ça, c'est le point final. Lorsqu'on transmet un bien, lorsqu'on vend ou on échange ou on hérite, il faut que toute cette chaîne soit transmise. Lorsqu'elle est complète, on est heureux parce qu'on peut suivre tous les échelons. Lorsqu'elle est incomplète, dans l'Antiquité, pas moderne, mais dans l'Antiquité, lorsque déjà il y avait des documents manquants, eh bien, ils ont eu la bonne idée d'écrire un nouveau document qui stipulait exactement toutes les phases de transmission connues du bien en question, en stipulant combien de tablettes contenaient le dossier, combien de tablettes manquaient, et si possible, exactement, quelles étaient les tablettes qui manquaient et qui devaient revenir, évidemment, si jamais elles étaient trouvées au nouvel acheteur. Ce sont là, donc, des dossiers. Et voilà encore une fois un problème dans la reconstitution des archives. Ce sont là des dossiers qui voyagent, verba non man, scripta non manent. Ce sont des dossiers qui voyagent, puisque chaque fois que le bien est vendu, eh bien, tout le dossier déménage dans une nouvelle archive. Et ça peut se faire 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois, avant d'arriver dans l'archive finale, qui n'est que l'archive finale, parce qu'il y a eu un incendie dans la maison. Sinon, ces biens, ou certains de ces biens, auraient pu se remettre à voyager également. Pour notre propos, il est important de constater que dans ces dossiers, il y a toutes sortes de noms de personnes, de vendeurs, d'échangeurs, de personnes qui héritent, qui n'ont rien à voir avec la famille des Kalamahu. Il n'y a que le dernier document qui stipule que ce soit vendu, échangé, donné, etc. Aux Kalamahu. Donc là, nous avons une masse de personnes qui n'appartiennent pas, qu'on n'attendrait pas trouver dans de telles archives, mais grâce au mécanisme, au système des chaînes de transmission, ils ont bien leur place dans cet ensemble. Ensuite, il y a bien entendu les lettres. Nous en avons pas mal dans les archives de Routou. Et là, encore une fois, il faut dire que pour la reconstitution des archives, dans ce cas-ci, en tout cas, c'est un problème, parce qu'aucune de ces lettres, aucune n'est adressée à Inanna Mansum ou Urutu. C'est-à-dire que toutes ces lettres sont adressées à Anna Awilim, Anna Abia, Anna Belia, Anna Shapiria, et jamais on ne nomme le destinataire. Probablement, ces lettres sont assez récentes et donc adressées à Urutu, mais en tout cas, nous pouvons être certains qu'elles étaient bien adressées à un des deux Kalamahu, ce qui explique leur présence dans ces archives. Alors, les documents inattendus. Eh bien, ce sont des documents anciens qui mentionnent des ancêtres de Kalamahu. C'est le fameux lot d'archives anciennes de Siparyakrurum que Inanna Mansum avait pris avec lui en déménageant à Siparamnanum et qui a donc voyagé le voyage à Amnanum, puis dans la maison de location, puis dans la maison définitive où nous les avons retrouvés. Ça, c'est un peu inattendu. C'est le groupe L qu'on a retrouvé avec bien déliné, comme si c'était si ça avait été entreposé dans une sorte de petit coffre et donc dont j'ai au sujet duquel j'ai écrit dans Open de Tablet Box dans le Festschrift Stoll. Et puis finalement, et c'est ça qui a éveillé notre curiosité, parmi les documents inattendus, nous avons des contrats où n'apparaissent pas les Kalamahu dans aucune qualité, où apparaissent des personnes qui clairement n'appartiennent pas à la famille, et là ça devient un peu inexplicable. Et pour tout vous dire, dans ce que je vais vous dire aujourd'hui, je pense avoir trouvé une raison, une explication pour un petit nombre de ces documents, mais pour le plus grand nombre, ça reste encore toujours un mystère, et c'est ce qui est de formidable à la syriologie, il y a toujours des mystères à résoudre, et ça n'en finit pas. Bien, composition des archives, 2113 textes vous ai-je dit, et selon les critères qui sont utiles pour aujourd'hui. Nous avons donc 513 documents mentionnant Inanna Mansum comme partie active, évidemment. 506 mentionnent Urutu. Malheureusement, il y en a 207 qui sont endommagés, donc nous ne pouvons pas savoir exactement quel est le nom des parties actives. Il y a 606 documents de comptabilité avec les lettres et autres. Il y a 92 documents de famille, ce sont les documents concernant les ancêtres qui ont été amenés à partir de Siparyakrum. Et finalement, il y a 189 documents qui mentionnent des acteurs différents. Et c'est évidemment de cela que nous allons parler. Et nous allons, encore une fois, diminuer le nombre, puisque, comme je l'ai dit, les personnes mentionnées dans les chaînes de transmission, eh bien, leur présence, on peut dire, est justifiée. Ce ne sont pas des éléments extérieurs, ils sont justifiés par les scènes, donc il faut encore les déduire. Il y en a 99, ce qui fait que nous restons avec quand même 90 documents qui n'appartiennent clairement pas, normalement, aux archives des Kalamakou. On peut les diviser par genre, approximativement, 34 prêts, 10 locations de champs ou de maisons, 12 locations de moissonneurs, 5 avances sur achat, nous reviendrons là-dessus, 2 des reçus de taxes, 10 reçus en général, 2 documents divers et 10 ventes, en spécifiant bien que ce ne sont pas des ventes immobilières, parce que celles-là se trouvent dans les chaînes, ce sont des ventes d'esclaves ou d'animaux. Bien. Ça nous dit quelque chose, hein, bon, il y a beaucoup de prêts, évidemment, ça nous dit quelque chose, mais ça ne nous dit pas encore tout. Et l'approche que j'ai choisie pour essayer d'élucider quelque peu ce problème, c'est de ne pas travailler par genre, mais de travailler par personne. Qui sont ces acteurs étrangers dans les archives des Kalamakou? Et ces acteurs étrangers, eh bien, il y en a quelques-uns qui ont une fonction importante. C'est ce qu'on pourrait appeler les dignitaires voyageurs, les hauts placés itinérants, on pourrait dire. Et de qui s'agit-il? De l'Abid Sabim, évidemment, haut militaire, du Mouer Tsab, Bab et Kalim, et sans doute aussi du Galaboum, du Choui. Et ce n'est pas moi qui le dis. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir citer celui qui vous a invité à un colloque. C'est Dominique Charpin, déjà en 1982, qui avait dit ainsi où tous les shtars, dont le bureau est situé à Babylone, louent-ils des terres dans la région de Dilbat. Et cette situation dit en plus qu'il n'y paraît à première vue. Ils louent des terres à Dilbat. Et vous verrez que c'est important. Dominique, à juste titre, n'a pas dit il est propriétaire, mais il loue des terres dans la région de Dilbat. Stoll a également abondé dans le même sens. Es gab in dieser spätbabylonische Zeit einige sehr hohe Beamte, die wohl in Babel residierte und denen wir in Texten aus Sippar, Dilbat und Kish begegnen. Et il spécifie Abid Sabim, Chandabakum et le Muerum. Alors, qui sont ces personnes dans les archives d'Urutu? Nous avons Marduk Mushalim, un Abid Sabim, nous avons Marduk Mubalit, un Galaboum, et Marduk Mushalim Muerum. Le premier, comme vous voyez, est mentionné 18 fois dans les archives, donc sans le nom de Inanamansum ou Urutu, donc ce sont vraiment des documents à lui. Une fois, parmi ces 18, il y en a quand même un qui mentionne Inanamansum. Et nous verrons que ça a son importance assez crucial. Hors des archives, il est connu encore dans 7 textes, et les dates Amiditana 13 à Amiditana 29, selon mes recherches. Marduk Mubalit Galaboum, 11 textes dans les archives, dont un également mentionnant Inanamansum, et là aussi, ça a son importance, comme j'espère pouvoir le démontrer. Hors des archives, encore un texte. Marduk Mushalim, je le mentionne, mais nous n'aurons pas le temps de discuter, mais il n'a de toute façon que 3 textes, ce sont les 2 premiers qui vont retenir notre attention. Il faut ajouter à cela que dans les archives, parmi les étrangers à qui on ne s'entend pas de les trouver, il y a 2 Lamassani, et 2 Nanditum de Shamash, évidemment. La première est explicitement dite fille de Marduk Mushalim Abid Sabim. La seconde est fille d'un Marduk Mubalit. Là, on n'est pas sûr. Pour le premier, on est sûr que c'est bien la fille de l'Abid Sabim. Et donc, non seulement lui-même, mais aussi sa fille, qu'il a placé à Sipar Yahurum comme Naditum, elle aussi dépose des documents dans les archives d'Urutu, de Inanamansum et d'Urutu. Alors, quels sont ces textes? Quels sont ces textes? Nous commençons par Marduk Mushalim Abid Sabim. Il y a 2, 4, 5 textes d'avance. Qu'est-ce que c'est les avances? Eh bien, ce ne sont pas les documents d'achat, mais ce sont les documents qui précèdent l'achat. Quelqu'un paye un certain montant, ici, vous voyez, 8 guines d'argent, de l'orge, etc. Et c'est un premier ou second paiement, en vue d'autres paiements, qui viendront compléter jusqu'à ce que la somme de la vente, de la valeur du bien en question, est atteinte. Au moment où cela est atteint, on écrit évidemment le document de vente et ces documents-là deviennent obsolètes. Alors nous avons cinq documents d'avance. Donc Marduk Mushalim donne une avance à Ibn Sherum pour acheter un champ, à Nana Mansum pour acheter un champ, à Ibn Nissin pour acheter un champ, à Bilchounou pour acheter un bovin et à Sine Mugurani pour acheter une maison. Si vous voulez savoir plus sur ce genre de texte et un développement bien plus élaboré, je vous renvoie à l'article de Catherine de Graaf, Many a Mickle Makes a Muckle, dans l'excellente revue Acadica. Alors, la dernière colonne, c'est simplement, je reviendrai là-dessus à la fin de mon exposé, si j'arrive aussi loin, ça indique dans quel groupe, dans quel lot de tablettes, parce que ça nous savons grâce aux fouilles très systématiques, dans quel lot de tablettes le document a été trouvé. Donc ces cinq ont été trouvés dans les lots K et L qui sont proches les uns des autres, comme on le verra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut déjà dégager de ceci? Eh bien, nous avons des avances pour l'achat de champs. Malheureusement, les champs ne sont pas spécifiés quant à leur localisation. C'est simplement pour acheter un champ. Mais ça nous dit quelque chose, parce que qu'est-ce qui manque? Et pourtant, j'ai cherché. Qu'est-ce qui manque? Eh bien, c'est le document d'achat final. On commence à faire des avances, et c'est évidemment le but d'acheter la chose finalement, d'acheter le champ, d'acheter la maison et le bovin. Eh bien, ce document d'achat n'a pas été trouvé dans les archives. Bon, on peut toujours dire que ça a disparu, etc., mais l'histoire est bien plus belle si on dit que ce n'était tout simplement pas présent. Et quelle pourrait être la raison de la non-présence du document d'achat? Eh bien, Marduk Mushalim est un dignitaire itinérant. Et lorsqu'il est à Sippar, clairement, il investit dans l'immobilier local, il achète des champs, il achète une maison, il achète un bovin pour, évidemment, le travail dans les champs, et les documents temporaires, ben, il les paye localement, évidemment. Donc ceux-là sont conservés localement, et comme il n'a pas d'archives locales, il les donne à Inanna Mansum pour les garder dans ses archives à lui, et quand, finalement, le bien est vendu, eh bien, il prend évidemment le document de vente avec lui à Babylone, parce que ça, c'est le document qu'il devra garder. Ça, c'est le document principal. Voilà. Donc, il achète des champs, etc., sur une période de 8 ans, et les contrats d'achat manquent. Bien. Contrat de location de moissonneur, aussi de la part de Marduk Mushalim, il donne de l'argent, parfois de l'orge, à des personnes pour pouvoir disposer de moissonneurs lorsque sera venu le temps de la moisson. Là aussi, ça prouve encore une fois qu'il a bien, il s'est procuré des champs localement qu'il doit faire travailler. Encore une fois, il s'agit de documents qu'on pourrait qualifier de locaux. C'est à Sippar qu'il loue des moissonneurs, qu'il donne de l'argent pour l'autre. Ça n'a aucun sens d'amener ces documents à Babylone pour alors revenir et contrôler si c'est bien. Non, il vaut mieux que ces documents restent sur place. Donc, il obtient des moissonneurs, ce qui pourrait correspondre à ses achats, enfin, ses avances d'achat de champs depuis Amiditana 24. Oui, on pourrait noter la présence de Nana Mansum, fils de Sinacham Ilinam, auquel il avait payé une avance pour acheter un champ et auquel il donne maintenant de l'argent pour que celui-ci lui fournisse des moissonneurs au moment venu. Trois prêts se trouvent aussi que Marduk Mushalim a concédé, des prêts en orge, de assez grande quantité d'orge, peut-on dire. Et là aussi, on peut le rattacher au fait qu'il ait localement des champs qui vont lui rapporter de l'orge, évidemment, grâce aux moissonneurs. Alors, que peut-il faire de cette orge? Il peut l'amener à Babylone, bon, c'est nécessaire, ou il peut donner des prêts localement pour faire fructifier, disons, les revenus de ces champs. Il y a aussi deux commendas, comme je les appelle, suivant Skyst, dont tout le monde ne sera pas d'accord sur le terme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des textes anachimim, donc on paye quelqu'un, on lui donne de l'orge dans ce cas, pour acheter quelque chose, et ce quelqu'un devra fournir la chose achetée un peu plus tard, selon la convention établie. Il achète quelque chose, malheureusement, l'objet est cassé, mais il achète aussi des khatoum, hein, des guishpa, et Je ne sais pas si, en français, le terme « houlette » est la bonne traduction, mais j'adore ce mot. La houlette, ça évoque toute une sorte de d'épâtre, la campagne, c'est beau, c'est joli. Bon, il achète des houlettes, sans doute parce que, bon, s'il s'agit bien des bâtons de berger, ça veut dire qu'il aurait aussi acheté des moutons, probablement. Et pour la bonne compréhension, les Kalamaku aussi achètent des Gishpa, des Khatum en Amitana 22, et Urutu en achète en Amitsaduka 8. Donc c'était quelque chose qu'il fallait aller chercher ailleurs, hein, parce que ça sert bien d'une caravane, et que, oui, on en avait besoin régulièrement, des nouveaux. Et alors finalement, un acte d'achat d'un esclave pour lequel il est précisé « Will it beat him sha sipar ?» Donc littéralement, c'est quelqu'un qui a été conçu dans la maison, mais ce qui est apporté ici, c'est « a sipar ». Alors, est-ce qu'il achète un esclave pour l'amener à Babylone ? Tout est possible, évidemment, mais puisqu'il a des champs, puisqu'il a une maison, etc., il a peut-être besoin aussi de main-d'œuvre et de main-d'œuvre qui puisse être assistée par un esclave. Et si cet esclave, en effet, est acheté et reste à Sipar, ce serait encore une fois un exemple d'un texte à valeur locale, pourrait-on dire, qui ne doit pas nécessairement être emporté à Babylone. Alors j'en arrive au seul texte où Marduk Mushalim Abirin, donc Abitzabim, est mentionné et qui mentionne également Inanamansum. Il s'agit d'un connoissement. Hein. Bon, vous êtes français, vous savez tous ce que c'est un connoissement. C'est Klaas Wehnhoff, dans un article qui avait proposé cette traduction pour Shubultum, dans le cas des textes de Sipar, et dans les archives, nous en avons quand même une bonne dizaine. Qu'est-ce que c'est un Shubultum ou un connoissement? Ça vient des contrats anciens de la marine, où on spécifiait qui envoyait par quel bateau à qui, et quand, etc., une certaine cargaison, un certain produit, ce qu'on appelle en anglais, en fait, « a bill of lading ». Et donc, il est mentionné dans un connoissement. Alors, qu'est-ce que ce connoissement nous dit ? 16 et 5 sixièmes de shekel d'argent et le shubultum d'inanamansum pour Marduk Mushalim Abitzabim. Donc, il y a une certaine somme, plus ou moins importante, qui part de chez Inanamansum et qui est destinée à Marduk Mushalim Abitzabim. Notre grande frustration avec ce genre de texte, c'est qu'on décrit donc pour qui est-ce qui est envoyé, qui est-ce qui l'a porté, quand est-ce que ça doit être remis, etc. Mais jamais la raison, jamais le pourquoi. Et c'est là toujours que les Mésopotamiens nous frustrent. Ils n'arrivent pas très souvent à dire le pourquoi des choses qui étaient évidentes pour eux, évidemment. Shumum Lipsi, le capitaine de Sipar, à Babylone, il a envoyé. Lorsqu'il arrivera à Babylone, il donnera les 16, 5, 6e de shekel d'argent à Marduk Mushalim Abitzabim. Et alors, il prendra la tablette de Marduk Mubalit Abitzabim, et il cassera sa tablette. S'il ne prend pas la tablette, il sera fait selon l'ordonnance royale Kima Tzimdat Sharim. Alors la tablette, et c'est le seul. Nous avons une série de textes, et je pense que c'est le seul où on mentionne la tablette qui doit être cassée. Alors la tablette qui doit être cassée, c'est assez évident, évidemment. On vous apporte 16 et 5 sixièmes de shekel d'argent. Vous devez donner en échange la tablette qui sera cassée, qui sera détruite ou enfin invalidée, n'importe. Ben, il s'agit évidemment d'un emprunt, évidemment, il s'agit d'un document qui indique que Inanamansum avait une dette de 16 et 5 sixièmes de shekel vis-à-vis de Marduk Mushalim, qui à ce moment-là réside à Babylone. Et quelle peut être cette dette? Eh bien, je pense, et nous verrons avec le deuxième dossier que je vous présente, c'est peut-être encore un peu plus clair, je pense que cela explique la présence des prêts que Marduk Mushalim a concédés à Sipar. Qu'est-ce qu'il en a fait? Ben, encore une fois, il a des rapports de ses champs, etc. Donc, il donne des prêts. Et au lieu de les emporter avec lui, ces documents d'emprunt à Babylone, où il ne sait rien en faire, il doit revenir pour recouvrir, il va les donner localement à son égal, son ami, etc., Inanna Mansum, pour qu'il les conserve et pour qu'il puisse recouvrir la dette Inanna Mansum, puisqu'il a les documents. Mais évidemment, ce n'est pas un cadeau, puisque la recette, ce qui est rendu par les débiteurs, doit évidemment parvenir à Marduk Mushalim. Et ça, c'est la raison, je pense, pour laquelle ce Shubultum est établi. Et on voit clairement qu'il y a une tablette par laquelle Marduk Mushalim, si besoin en est, peut prouver qu'il y a une dette et qu'on doit le rembourser. Le deuxième dossier est encore plus explicite à cet égard. Donc, un petit résumé, il investit localement en achetant des champs, une maison, un bovidé, un esclave. En dehors, on le trouve à Sipar, à Méditana 13 et 14, des allocations d'orge pour les troupes, évidemment, qui voyagent avec les troupes, entre autres. Plus tard, on le trouve à Sipar, en Méditana 29. Donc, il calcule le travail de corvée des troupes à Sipar. En 33, il est fait mention d'un champ qu'il avait acheté. Donc anciennement, il avait acheté. En 34, son fils et ses frères donnent un champ en location. Et là, nous arrivons sur la communication de Wiebke Meinhold, évidemment. Ses enfants avaient gardé en propriété commune un champ qu'il donne en location. Mais ce sont ses enfants, ce n'est plus lui. Et en Amitsadoukwa 1, ses enfants donnent à louer une maison, gardée aussi en propriété commune. Donc on peut déduire qu'entre Amitana 29 et 33, probablement, Marduk Mushalim n'était plus de ce monde, qu'il a dû décéder entre les deux, et que donc ses fils ont repris ses affaires. Nous arrivons au deuxième dossier, Marduk Mubalit Galaboum. 11 documents des archives, un en dehors, et vous pouvez déjà deviner évidemment ce que c'est ce un en dehors, ce sera également un Shubultum. Là, nous avons des prêts, nous en avons 8. Nous avons retrouvé 8 prêts concédés par Marduk Mubalit Galaboum à Sipar Amnan, enfin à Sipar. C'est de l'orge, principalement le revenu de ses champs évidemment, mais également 10 guines d'argent et 1,5 guine d'argent dans des documents un peu spéciaux. C'est-à-dire, ce sont des prêts, mais les prêts sont formulés 10 guines d'argent pour l'achat d'un esclave par exemple. Alors nous, on se dit, dans ce cas, c'est un commenda, donc on donne de l'argent et on va recevoir un esclave ultérieurement en retour. Seulement ici, il est précisé anacham wardim, mais le retour doit se faire en argent. On ne doit pas rendre l'esclave, on ne doit pas donner l'esclave, on doit le faire. Donc ce sont de véritables prêts et il faut donc considérer que dans ce cas-ci, le anachimim est un peu du même niveau que anahusatim, ananashpakutim. Ce sont des précisions sur l'emploi qu'on en fera, mais ce n'est pas l'objet de l'emprunt véritablement. J'ai mis en jaune les 10 shekels d'argent et le 1,5 shekel d'argent parce que nous avons un autre connoissement où il est dit 11,5 de shekel et le shubultum d'Inanna Mansum pour Marduk Mubalit Galaboum. Il a envoyé 2 personnes. Dès qu'ils arriveront à Babylone, le shubultum apporté, ils donneront. S'ils ne le donnent pas, il sera fait selon l'ordonnance royale. Là, nous avons, est-ce un hasard ou non ? Impossible de le dire. Mais nous avons 2 emprunts de 10 et 1,5 de shekel d'argent. Nous avons 11,5 de shekel d'argent qui doivent être remboursés à Marduk Mushalim à Babylone, c'est quand même, ce serait bizarre que ce soit un simple hasard. Je retourne en arrière pour vous montrer les dates. J'espère que... Oui, voilà. Les dates. Ah, et le pointeur. Ah, formidable. Le premier prêt de 10 guines d'argent est concédé en Amitsadouk à 1-1-1. Par rapport à la Misharoum, enfin, Dominique nous en dira plus certainement tout à l'heure. C'est un peu bizarre. Le second prêt, c'est Amitsadouk à 1-1-4. Et le connoissement, c'est en 1-1-8. Donc, 4 jours après que les prêts ont été, ou un peu plus, que les prêts ont été concédés, déjà, on envoie l'argent. Et donc, ça dit quelque chose sur, si ma reconstruction est correcte, ça dit quelque chose sur le fonctionnement des choses. On dira, voilà, tu reçois les documents, tu pourras plus tard récupérer l'argent, mais il faut que tu me payes immédiatement, il faut très vite, je dois avoir mon argent à Babylone. Pour autant qu'on voit, encore une fois, c'est une chose, c'est quand même assez exceptionnel, 11,5 doivent être remboursés, 11,5 doivent être remis à Marduk Mubalit Galabum, à Babylone. Où est le profit du Kalamachum dans tout cela? Eh bien, il n'existe pas. Quel peut être le but alors de ce genre d'opération? Eh bien, je crois qu'il faut situer ça dans la sphère de les bonnes relations avec les dignitaires haut placés. Combien de lettres n'avons-nous pas où quelqu'un demande à quelqu'un d'autre qui est à Babylone d'intercéder auprès de tel ou tel haut fonctionnaire qu'il connaît bien, etc. Donc avoir de bonnes relations avec ces gens, même sans faire de profits matériels, je pense que c'était une chose très très importante dans cette société. Oui, donc encore, il a un commenda. Alors c'est un vrai, il donne un shekel d'argent pour acheter du sésame. Il y a un petit document, IOU, donc Eli Ishu. Il y a un contrat de location des moissonneurs, un seul, mais ça prouve que lui aussi avait des champs localement. Donc il dépose dans les archives des documents d'usage local, dirais-je, des prêts accordés localement, qu'il se fait payer assez rapidement à Babylone. Et si, mais alors on est tout à fait dans l'hypothèse, si le Misuarum invalide les documents, eh bien, Inanna Mansum n'a pas fait une très bonne affaire, évidemment, parce qu'il rembourse ce qu'il ne pourra peut-être plus jamais recevoir. Et d'ailleurs, la présence de ces documents dans les archives montre que probablement ça n'a jamais été recouvré. Un paiement à l'avance du sésame, etc., un contrat de location. Oui, voilà. Alors, bon, jusque-là, on est dans ce qui pourrait être une explication, et je ne sais pas où j'en suis avec le temps. 5 minutes, merci beaucoup. Oui, ça devrait suffire. Jusqu'ici, nous avons parlé des hauts fonctionnaires itinérants. Les autres qui sont documentés dans les archives, je dirais, ce sont des personnages locaux. Ce ne sont pas des personnages qui voyagent, ce sont des locaux. Et là, l'explication devient beaucoup plus difficile. J'ai pris comme exemple une figure locale, Shamashata Kalim, un Saraboum, donc un maître brasseur, qui donne une avance d'argent, 6 shekels, pour acheter 4 meules, et il donne 7 pirous de bière pour une caravane, qui va lui rapporter les meules, et qui, lorsqu'elle sera bien revenue, devra lui payer les 7 pirous de bière. Hein, on ne jette rien. Un prêt, 930 litres d'orge à l'Anash Pakoutim, et alors, bizarrement, 2 reçus. Et ce sont des reçus de taxes. Il paye 552 litres et 10 240 litres de drèche, donc c'est le restant de la production de la bière, comme taxe Nemetum. Bon, que le Saboum paye la taxe Nemetum, pas de problème, on le savait. Mais il paye cette taxe Nemetum, est-il précisé dans les textes, non pas à Sipar, mais à Dimat Enlil. Bon, nous savons depuis la publication de Steinkeller que Dimat Enlil se trouvait dans les environs de Sipar, certainement. Mais pourquoi un maître brasseur qui paye sa taxe, qui doit être déposée dans le Nakamtum de Dimat Enlil, pourquoi entrepose-t-il ces documents dans les archives d'Inanna Mansum à ce moment-là? Et on les a retrouvés, fait exceptionnel dans le désordre de ces archives, on les a retrouvés ensemble avec les paiements de taxes Igisum de l'ancienne famille Kalou de Inanna Mansum à Sipar Yahrurum. Donc c'est un petit groupe de paiements de taxes qui est rassemblé là, et on ne sait pas très bien pourquoi moi je ne sais pas très bien, j'espère que vous le saurez, vous me direz dans quelques minutes, pourquoi ça a été opposé là. Oui, j'avais fait un petit aperçu, nous allons passer rapidement là-dessus, en regardant le total des différents genres, si on peut dire, ce que nous avons déjà vu avec les fonctionnaires itinérants, en ajoutant les Lamassani qui appartiennent à la même famille, le Shamashta Kalim, le Saboum, il reste en fait 42 documents individuels. Ce sont des gens qui apparaissent une fois, mais qui dépose un document, et surtout, les plus grandes catégories, c'est la location de champs, les prêts, évidemment, les ventes d'esclaves ou d'animaux, et qui dépose un document de chaque fois de ce type dans les archives. Et alors pourquoi? La seule chose qu'on peut dire, mais ça dit quelque chose et ça ne dit rien du tout, c'est que ce sont des familiers des Kalamachou, des clients, des gens qui sont liés à eux, et qui donc déposent leurs documents, qui n'ont peut-être pas d'archives personnelles, et qui les les déposent chez eux. Mais ce serait bizarre que ces personnes n'aient qu'un seul document à déposer. Il doit y en avoir plus, mais qu'on n'a pas retrouvé. Voilà, les 12. Oui, parmi les documents épars, il fallait quand même absolument que je vous montre celui-ci. Ne fût-ce que pour souhaiter la bienvenue à la princesse Iltani. Je sais que récemment, on a voulu lui dire au revoir, et c'est une très belle chose de dire au revoir aux dames, mais je pense que c'est quand même une personne, elle est active, c'est la fille du roi, et en accord avec le travail de Rinsdebourg sur la famille royale, je dirais qu'il doit probablement s'agir de Iltani II, la fille de Samsu Iluna, qui accorde un prêt. Là encore, pourquoi ce document se trouve-t-il dans les archives de Routou? Est-ce que c'est encore une bonne connexion avec les personnes importantes dans l'entourage? La question reste ouverte. Et pour ceux d'entre vous qui diraient « oui, mais enfin, on peut quand même peut-être dégager quelque chose de la disposition des textes dans les différents lots d'archives », petite déception. Les textes de Marduk Mushalim Abit Sabim, s'ils ont été déposés en même temps, n'ont jamais formé un groupe cohérent. Dans le lot K, il y en a 7. Dans le lot L, il y en a 7. Mais aussi dans le lot A, ici, il y en a un, une location de moissonneur. Dans le lot E, il y en a un. Dans le lot J, il y en a un, c'est-à-dire ils sont un peu dispersés. Ce qui pourrait être expliqué par le fait que ces documents ne sont pas rentrés ensemble, mais petit à petit dans les archives et qu'on les a mis un peu de façon éparse. J'ai déjà révélé le mot de la fin. Bon, c'est un peu mal. Les prêts, la forte concentration dans le lot K, donc les prêts toujours de personnes étrangères au Kalamakou, mais grande dispersion dans le reste. Et pour finir, non pas avec une matrioshka qui est quand même un peu actuellement, mais quelque chose qui vous parle beaucoup plus en France, je terminerai sur cette image qui donne exactement le même sens, mais d'une autre façon. Et je vous remercie pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.